Philippe, t'es là et Martin McGuire est là. Salut Martin.
Bonjour à vous deux.
Martin, on a changé de coach, mais les résultats tardent à changer.
En tout cas, on a eu quand même une certaine lumière au bout du tunnel en fin de semaine. Samedi, honnêtement, le club a bien joué, surtout défensivement. Je pense que ce qu'on voulait vraiment améliorer d'abord, là, tout de suite, en partant, c'était ce qu'on donnait comme chance aux adversaires. Ça, on a réussi à faire ça. Il y a quand même eu 40 lancers là, et quelques lancers de la part du Canadien. Mais honnêtement, rendu en prolongation, là, on a vu tout de suite laquelle des deux équipes était la plus confiante.
Bon, on a vu tout de suite.
Les Jets sont sautés là.
On a vu, Martin, aussi le débat qui a été lancé tout de suite. Là. Ça a été un débat sur l'utilisation des joueurs en prolongation parce que il est allé, Dominique Ducharme, avec des gars plus défensifs. Il s'est justifié par la suite. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû y aller avec des gars qui avaient peut-être une meilleure chance de la mettre dedans?
Écoute, je comprends peut-être un peu ce qu'il a voulu faire, surtout que de l'autre côté, Paul Maurice lui a mis trois attaquants sur la glace. Alors, les intentions des Jets étaient assez claires. Puis de toute façon, quand tu affrontes une équipe qui est un peu fragilisée à cause des problèmes d'exécution en défensive, puis tu t'en vas en prolongation, puis tu mérites pas nécessairement d'y aller parce que c'était le cas des Jets, là, ben tu y vas all-in, excusez l'expression, mais c'est un peu comme ça que Paul Maurice est allé. En plus, il était à la maison. Alors lui, il avait le premier choix des joueurs sur la glace. C'est Dominique Ducharme qui a un peu réagi à ce qu'il y a eu devant lui. Après avoir dit ça, je pense qu'il y avait quelque chose d'important qui avait été fait comme pas en avant parce qu'enfin, on défendait à 5. Le matin du match, c'était intéressant parce que Ben Sherratt, qui, vous savez, est le partenaire de chez Weber, alors ce que Ben Sherratt dit, il l'entend probablement de chez Weber, qui est pas loin de lui souvent, lui a dit, nous autres, pour mieux jouer, là, il faudrait avoir un peu d'aide des joueurs de centre. Il dit, nous autres, à la défense, quand on se fait presser, il faut avoir nos centres pas loin pour leur donner la rondelle. Puis j'ai assisté au premier entraînement, pour moi, là, de Dominique Ducharme, avec sa nouvelle équipe. Puis qu'est-ce qu'on pratiquait ce matin? Tiens, le joueur de centre proche des défenses, on a travaillé justement dans la zone défensive à défendre à 5. En quelque sorte, là, le discours était exactement le même qu'il y a quelques semaines, avec des mots différents, puis surtout une façon différente d'amener le projet, parce que le Canadien pouvait pas s'en sortir sans améliorer sa défense comme ils ont fait et comme on est en train de faire actuellement.
Bon, et l'enthousiasme était au rendez-vous, j'imagine, parce que là, c'est vraiment important pour le Canadien de retrouver très rapidement le sentier de la victoire. Je regardais le calendrier, Martin. C'est démentiel, le calendrier, le qu'attend le Canadien. C'est plus qu'un match à tous les deux jours, là, jusqu'à la mi-avril.
Effectivement, puis je pense que ça commence par demain soir, Philippe, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que demain, le Canadien joue plus gros que 2 points.
Ouais,
premièrement, c'est le premier match à Montréal de Dominique Ducharme derrière le banc, mais plus que ça, ce sont les Sénateurs qui sont en ville. Les partisans du Canadien, de ce temps-ci, les appellent les maudits sénateurs, parce que c'est un peu la bête noire du Canadien. Alors, tu sais, c'est vraiment demain, là, il y a un aspect psychologique qui est très, très, très important pour le Canadien, c'est justement ça.
Puis, ouais. puis après, ben, juste après, tu as 2 fois Winnipeg. Ça fait que t'es peut-être mieux d'aller chercher tes 2 points contre Ottawa, parce qu'on l'a vu contre Winnipeg, ça ne sera pas facile. Là.
Non, puis ça sera pas facile contre personne, Philippe et Patrick, là, d'ici la fin de l'année. Là, si tu as de la misère contre la dernière place de ta division, là, tu peux pas penser que ça va être facile. Puis, tu sais, il y a juste les Canucks de Vancouver là, qui ont pas joué vraiment mieux depuis que le Canadien les a croisés depuis ce temps-là. En terminant, messieurs, je voulais juste vous raconter un petit quelque chose parce que Dominique Ducharme, avec nous autres, a partagé un peu ses premiers jours comme coach du Canadien. Puis je trouvais l'histoire intéressante. Il nous a raconté que quand il a pris son automobile hier, là, quand l'équipe voyageait, puis sont revenus à Montréal, puis il a pris son auto dans le souterrain du Centre Bell, il s'est assis dans l'auto, puis il a dit « OK, moi, je suis parti pour voyager sur la route. Là, j'étais l'assistant de Claude Julien. Là, je m'assois dans mon char après le premier voyage de l'équipe là, sur la route, premier long voyage, deuxième long voyage, puis je reviens, puis je suis le coach en chef du Canadien de Montréal. » Alors, tu sais, ça a changé vite dans sa vie. Ça a changé vite également pour ses proches. Puis je termine avec une petite anecdote que Dominique Ducharme nous a racontée à nous, les diffuseurs, parce qu'on a une petite converse avec lui, là, hors caméra et hors enregistrement avant les matchs. Puis c'est une question de notre collègue Félix Séguin de TVA. Il nous a raconté comment il a annoncé à ses proches qu'il était choisi l'entraîneur du Canadien, entre autres ses enfants. Sa fille était dans un autobus scolaire. Alors, il a voulu faire un vidéo, une vidéoconférence avec elle, mais il s'est assuré qu'il n'y avait pas trop d'amis autour pour que la nouvelle soit juste à sa fille et non à tout le monde, parce qu'elle n'avait pas encore annoncé la nouvelle. Alors, il a annoncé à sa fille qu'il avait des petits écouteurs et son fils, il a annoncé ça au professeur, puis là, le professeur a fait sortir le petit gars à l'extérieur de la classe, puis là, le fils de Dominique a pu parler à son père, et pour le père, c'est important d'annoncer à ses enfants, avant que les médias le sachent, que ce soit annoncé publiquement, qu'il devenait le coach du Canadien. Puis on sait que Dominique a perdu son père en plein milieu du championnat mondial de hockey junior il y a quelques années. Alors, quand il l'a annoncé à sa mère, il a même pas eu le temps de finir sa phrase, puis sa mère pleurait. Vraiment, dans sa vie, ce gars-là, là, en l'espace d'une semaine, là, il est devenu l'homme, un des hommes les plus médiatisés au Québec, juste un peu après le premier ministre.
Merci. Alors, beaucoup, Martin. On va se reparler demain.
Certainement demain.
Merci. Je m'excuse aux auditeurs. Là, il y avait un petit délai sur la ligne. Ça arrive parfois, ce qui fait que Martin entendait avec une demi-seconde, une seconde de décalage la fin de nos questions. Petit silence et après ça, on parlait par-dessus lui. Donc, Philippe, je sais que tu as d'autres nouvelles de sport, mais juste avant qu'on passe aux nouvelles de tennis, le gardien, là, monsieur Price, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi le bilan de la fin de semaine?
Il n'a pas joué samedi. Et puis Jake Allen a été formidable devant le filet du Canadien. Alors là, dans le moment, tu dis, si tu veux mettre les meilleures chances de gagner, il faut que tu mettes Jake Allen.
Tu n'y vas pas avec ton vestiaire. Tu y vas avec ton meilleur joueur.
Sauf que, tu sais, j'en parlais tantôt, Patrick, le calendrier du Canadien, là, ça, c'est tellement chargé à partir de maintenant que Jake Allen ne pourra pas garder tous les matchs. Il faut absolument que Price revienne dans la rotation, quand même assez rapidement. Je pense que si dans deux, trois jours, il se sent mieux, il devrait revenir à l'avant-plan, parce que le Canadien joue à tous les deux soirs. Ça va être extrêmement difficile. En fait, c'est même plus que ça. En moyenne, d'ici à peu près la mi-avril. Je ne me souviens pas d'avoir vu un calendrier aussi chargé pour le Canadien depuis toujours.
Mais c'est sûr que tout ça est comprimé.
C'est ça, cette année. Exactement.
OK, un peu de tennis. Ouais. Félix Auger-Aliassime qui est blessé.
Oui, c'est ça. Il s'est blessé à la hanche aujourd'hui. Il jouait à Rotterdam et il a perdu en deux manches contre le Japonais Kinishikori. Alors, on va suivre ça, savoir est-ce que c'est une blessure qui est sérieuse ou pas. Mais c'est clair que ça l'a nettement ralenti aujourd'hui. Par contre, les nouvelles sont meilleures pour Eugénie Bouchard parce que, bon, elle n'a pas beaucoup de succès sur le terrain. Eugénie Bouchard, on le sait bien, elle est 143e au monde. Mais elle n'avait plus de contrat avec un équipementier. Alors, c'était Nike. Elle a longtemps été avec Nike. Mais Nike, en raison de ses mauvaises performances, ne lui versait plus d'argent. Finalement, on lui donnait des vêtements, mais là, à la fin, on lui en remettait même pas. Alors, donc, elle avait plus de contrat avec aucun fabricant. Et là, elle a signé une entente avec New Balance. Alors, au moins, elle a un contrat. C'est mieux que rien parce qu'elle repart quand même pas mal de loin. Est-ce qu'elle va réussir? Elle sera dans un tournoi en France, là, bientôt, à Lyon. Est-ce qu'elle va être capable de trouver un peu d'allant pour la saison européenne qui va s'amorcer, la saison nord-américaine. Il faut le souhaiter parce que c'est très, très, très difficile pour elle depuis longtemps. Puis, tu sais, au niveau de l'équipementier, je veux juste dire, c'est là que tu vois comment les joueurs, les joueuses, selon le moment, se retrouvent dans leur carrière, leur pouvoir de négociation. Tu disais tantôt, on parlait de football, tu dis, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on négocie.
Oui, ça dépend toujours de ton rapport de force.
C'est ça, exactement. Bien, Félix Auger-Aliassime, lui, plutôt en janvier dernier, a signé une entente avec Adidas. Alors, Adidas voulait vraiment, il était avec Nike auparavant, Adidas voulait vraiment faire en sorte que Félix Auger-Aliassime devienne un porte-parole de l'entreprise, puis aussi qu'il mette les vêtements et les souliers de cette entreprise-là à l'avant-plan. Alors, lui, c'est sûr que son pouvoir de négociation, il était pas mal plus élevé que celui d'Eugénie Bouchard.
Merci, Philippe. Juste avant d'aller à la pause, juste revenir sur la vaccination. Là, j'ai des messages que vous m'envoyez sur la messagerie et sur le courriel. Il y a quelqu'un qui me parle de La Salle. Il y a un centre de vaccination à La Salle, donc ça s'est bien passé. Rendez-vous à 13h, sortie à 13h53 avec 15 minutes de repos avant de partir pour s'assurer que la personne n'a pas de complications, ne tombe pas dans les pommes. Et questions aussi, beaucoup de questions sur les groupes d'âge. Là, il y a quelqu'un qui me dit, qui me demande, un couple qui vit ensemble, là, mais qui fait partie de deux groupes d'âge. La personne me dit, bon, 60 et 57 ans, est-ce qu'on peut se faire vacciner ensemble? La réponse, là, quand je regarde l'ordre de priorité du gouvernement du Québec, monsieur, c'est vous êtes dans le groupe 10, le dernier, vous êtes dans le reste de la population, parce que en bas de 60 ans, Il y a des gens qui sont vaccinés, qui vont être vaccinés, là, par exemple, à l'échelon 8, mais ça, c'est si vous avez un problème de santé chronique. Et après ça, si vous n'avez pas de maladie chronique, mais que vous êtes un service essentiel ou que vous êtes en contact avec des gens qui sont malades, bien là, vous êtes au point 9. Fait que, bref, si vous avez 60, votre conjoint-conjointe a 57, vous allez passer pas mal à la fin de la file. Et ouais, toutes sortes de questions comme ça. Il semble que ça, les gens ont l'air contents, là, en général, de comment ça se passe.
La prise de rendez-vous semble fonctionner, puis on semble en plus avoir les vaccins là, en nombre suffisant, parce que si on l'élargit aujourd'hui à Montréal et à Laval aux 70 ans et plus, c'était pas le plan là, il y a une semaine, Patrick, donc ça veut dire que les vaccins sont livrés. C'est une très, très bonne nouvelle.
Très bien. 16h33, Karine Vanasse, t'as accordé une entrevue, chère Catherine.
Ben oui, on a parlé de sa voix qu'elle prête au personnage de Morga dans Félix et le trésor de Morga, qui est le film parfait pour la relâche.
C'est quoi l'histoire de ce film d'animation Made in Québec?
C'est un jeune garçon qui a perdu son père et qui pense pouvoir le retrouver. Donc, il part à l'aventure en mer. Il engage un vieux marin et ils vont découvrir une île, en fait, un village souterrain où Morga détient le trésor de la jeunesse éternelle.
Bon, eh bien, écoute, on va être content d'entendre Mme Vanasse tout de suite après la pause. Il est 16h34.